VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Guinée-Conakry, suspension de la grève générale en cours depuis 5 jours. Les représentants du gouvernement, des syndicats et du patronat ont réussi à s'entendre sur la plupart des points en litige. Plus de détails avec Amadou Diallo, secrétaire général de la CNGT, la Confédération nationale des travailleurs guinéens.
D'abord, je commencerai par la suppression de tous les barrages non conventionnels. Les militaires et les gendarmes étaient là pour racketter les pauvres citoyens et on soutirait de l'argent aussi aux chauffeurs. En deuxièmement, la grille salariale des fonctionnaires guinéens, qui était très caduque, a été acceptée dans la deuxième version et qui va être revue dans le cadre de la transposition au mois de juin et fait rétroactif à compter du 1er janvier 2016. Ensuite, la pension civile des fonctionnaires guinéens qui n'étaient pas alignés sur le SMIC guinéen, à compter du deuxième trimestre, tous ceux qui sont en deçà du SMIC vont être alignés. Ensuite, dans le secteur de la santé et de l'éducation, tous ceux-là qui n'ont pas été pris en compte dans le cadre de ce processus vont être régularisés. Également, au niveau des conventions collectives, au niveau du secteur privé et mixte, toutes les entreprises qui ont besoin des conventions collectives qui n'ont pas été faites vont être réalisées dans un bref délai. Et également, au niveau des deux structures principales de la protection sociale, je veux parler de la Caisse nationale de prévoyance sociale des fonctionnaires et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire vont être opérationnalisés.
Amadou Diallo, secrétaire général de la CNGT en Guinée. Mali, le premier ministre français Manuel Valls a rencontré aujourd'hui à Gao dans le nord-est les troupes de la force française Barkhane chargées de lutter contre les groupes djihadistes dans le Sahel et aussi des responsables de la MINUSMA, la mission de l'ONU. Monsieur Valls est accompagné de son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le chef du gouvernement français est arrivé à Bamako, qui était la première étape de sa visite dans le pays. Après la cérémonie d'accueil à son arrivée, M. Valls et son homologue malien ont été au palais présidentiel de Koulouba où les attendait le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Plus de détails sur son passage à Bamako avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est à 19h35 que l'avion du chef du gouvernement français s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Senou. Il a été accueilli par son homologue malien en présence d'autres membres du gouvernement. Manuel Valls, premier ministre français.
Très heureux d'être au Mali, de retrouver le Mali. La dernière fois que je suis venu, c'est comme ministre de l'Intérieur. Et vous savez les liens que j'ai avec le Mali. Quand j'étais maire d'Evry, je venais régulièrement à Bamako et à Kaï. J'y compte des amis. Et puis là, c'est pour marquer une nouvelle fois là, le lien étroit entre le Mali et la France.
Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs du gouvernement sont montés au palais de Koulouba où les attendait le président de la République du Mali. Là, il a surtout été question de la lutte contre le terrorisme.
Mais nous avons la volonté, je viens de le rappeler au président Keïta, poursuivre cet engagement parce que la lutte contre le terrorisme, contre la violence, c'est un combat commun que nous menons avec le Mali. Ici, depuis 3 ans et avec des résultats qu'il faut saluer car la démocratie est toujours aujourd'hui de nouveau là, au Mali. Il faut faire le point pour voir tout ce qui peut être amélioré pour gagner en efficacité contre ces groupes terroristes et contre la barbarie qui cherche à frapper les valeurs communes que nous partageons avec le Mali.
Plus de 700 Français vivent au Mali. Manuel Valls a rencontré certains d'entre eux. Ils ont surtout parlé de l'état d'urgence en France et de la révision constitutionnelle.
Protéger les Français d'abord, c'est la première priorité du président de la République. C'est la première priorité de mon gouvernement. C'est le sens des mesures exceptionnelles que nous avons pris une nouvelle fois après les attentats que nous avons subis. Nous mettons en œuvre les réponses adaptées au travers de l'état d'urgence qui a été prolongé encore cette semaine, en faisant également évoluer notre constitution. Il s'agit d'y inscrire avec la plus grande force que quand on est français, quel que soit d'ailleurs son lieu de naissance, la couleur de sa peau, qu'on soit mononational ou binational, là n'est pas la question. Et quand on est français et que l'on s'en prend à la France, à ses compatriotes de la manière la plus infâme, on déchire le contrat et on ne peut pas demeurer français.
C'est accompagné du ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, que Manuel Valls a effectué le voyage sur Gao. Il a rendu visite au commandement des différentes forces en présence avant d'échanger avec la force Barkhane.
Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble sur les questions militaires et de lutte contre le terrorisme, mais aussi dans notre relation économique, culturelle, éducative. Nous sommes deux amis et nous allons bien travailler ensemble pour notre intérêt commun.
Après Bamako, le chef du gouvernement français est attendu dans la capitale du Faso, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, dernier jour de campagne ce vendredi, les candidats jettent leur dernière force dans la bataille après la société civile hier. C'est l'opposition qui dénonce le vote par témoignage. La Cour constitutionnelle a été saisie. Plus de détails avec l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pinault.
La COPA 2016 passe à l'attaque sur le plan juridique. La coalition pour l'alternance a déposé un recours en procédure d'urgence devant le juge électoral. La Cour constitutionnelle devrait se prononcer rapidement car la campagne s'achève à minuit ce vendredi et le scrutin aura lieu dans 48 heures. L'opposition nigérienne dénonce toujours ce vote par témoignage qui concernera dimanche plus d'un million d'électeurs, notamment dans la région de Tawa. Un électeur pourra donc voter si deux électeurs d'un même bureau de vote peuvent témoigner de son identité. Une porte ouverte à la fraude, avait dit le collectif de la société civile Résistance Citoyenne. Autre remous provoqué par ce vote, par témoignage, la démission du conseiller juridique du président de la CENI, Yahya Issoufou. Le vote est toujours prévu pour le 21 février et 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, la justice burundaise a annulé ses mandats d'arrêt internationaux contre 15 personnalités, dont plusieurs leaders de l'opposition en exil, selon un document officiel du gouvernement parvenu à l'AFP aujourd'hui. Parmi les personnes concernées, le président du Sénared, qui est la principale plateforme de l'opposition regroupant les leaders des partis d'opposition en exil, à savoir Léonard Nyangoma, et puis son porte-parole adjoint Pancras Chimpaye, ainsi que des frondeurs du parti au pouvoir, Pi Ntavio Anyoma et Gervais Rufyi Kiri. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye, candidat au présidentiel de jeudi, de nouveau arrêté au siège de son parti à Kampala après avoir été brièvement interpellé hier. Les résultats partiels et provisoires du premier tour de la présidentielle donnent le président Yoweri Museveni largement en tête. Le point à Kampala avec Eric Bagirou Broubusa, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique.
Quelques quartiers, il y a une grande peur parce que Kizza Besigye a été arrêté. Ses partisans sont révoltés contre la police et les militaires. La situation n'est pas bonne. Quelques commerçants ne travaillent pas. Quelques voitures ne passent pas. Les résultats partiels montrent que le président Yoweri Kaguta Museveni bat record avec 62%. Kizza Besigye, plus de 30%. Ils sont suivis par Amama Mbabazi avec 1%.
Eric Bagirou Roubusa, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Kampala, en Ouganda. On part maintenant en Afrique du Nord, Libye. Des avions de combat américains ont bombardé à l'aube ce matin un camp d'entraînement du groupe État islamique à quelques dizaines de kilomètres de la capitale libyenne. Bilan plus de 40 morts, dont probablement un chef de l'organisation djihadiste, Maïlis Egel.
Le raid aérien a complètement détruit un bâtiment de 2 étages abritant des djihadistes à Sabrata, à 70 km à l'ouest de Tripoli. La plupart étaient des Tunisiens qui auraient loué la maison pour s'entraîner au combat. Un nombre non négligeable d'armes ont été trouvées sous les décombres. Selon Washington, Noureddin Chouchane figurait parmi les personnes tuées. Ce Tunisien est soupçonné d'être derrière les 2 attentats de l'an dernier en Tunisie, celui du musée du Bardo qui a fait 22 morts et celui contre un hôtel près de Sousse qui a fait 38 morts. Les autorités tunisiennes ont affirmé que le djihadiste auteur de ces attentats en Tunisie s'était entraîné dans des camps à Sabrata. C'est la 2e fois en 3 mois que les États-Unis mènent des frappes ciblées contre l'État islamique en Libye. Le 13 novembre dernier, un bombardement américain avait tué l'Irakien Abu Nabil, présenté comme le plus haut responsable de l'État islamique en Libye.
La branche égyptienne du groupe État islamique, EI, a diffusé des photos montrant l'exécution de 2 hommes présentés comme des espions pour le compte de l'armée égyptienne qui lutte dans la péninsule du Sinaï contre une insurrection djihadiste. Le site américain spécialisé Site a confirmé l'authenticité des photos publiées sur Twitter. Et pour terminer, les élections primaires présidentielles ici aux États-Unis, le sénateur du Vermont Bernie Sanders a resserré l'écart avec sa rivale Hillary Clinton dans la course à l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche. Un sondage le plaçant même devant l'ex-favorite des primaires. Voilà, c'est tout. Merci de votre affection. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.